Salut à tous, je m'appelle Sébastien Bourges et bienvenue à la deuxième partie de notre spécial Stephen King. Je suis toujours accompagné de notre panel de qualité composé d'Anne-Marie Boutillier, de Pierre-Alexandre Bonin, de Mélissa Boudreau, de Jonathan Reynolds et d'Élise Lucie Henri-Pin. Avant qu'on commence, chers auditeurs, avant de commencer l'enregistrement, on a été rejoint ici par Pierre-Luc Bonin, le frère jumeau de notre Pierre-Alexandre. Pierre-Luc est récemment sorti d'un séjour dans une clinique psychiatrique pour une raison qui nous a demandé de taire au micro. Et il nous assure que c'est pour une raison qui est pas si grave que ça et qui se porte plutôt bien quand il oublie pas de prendre ses médicaments. Puisque c'est un grand admirateur des romans de Jonathan Reynolds, lui et Jonathan se sont installés dans le salon juste à côté pour jaser un petit peu. Donc si vous entendez pas Jonathan dans la conversation, faites-vous-en pas, il va venir reprendre sa place avec nous dans très peu de temps. Alors pour ceux qui sont autour de la table, recommençons notre discussion là où on l'avait laissé la dernière fois en abordant l'aspect des adaptations cinématographiques. Pour le commun des mortels qui n'ont pas fait la lecture des nombreuses histoires de Stephen King, ces gens-là ont quand même pu prendre connaissance de son matériel au moyen des très nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles de ses œuvres marquantes et aussi de ses nouvelles un peu plus obscures. Depuis 1976, l'année de sortie du film Carrie, et jusqu'en 2014, il n'y a pas une année qui a passé sans qu'au moins une ou plusieurs de ses œuvres soient transposées à l'écran. Certains de ses résultats sont brillants, d'autres moyens, d'autres mauvais, ou même carrément nuls. Puis en tant que fan invétéré de King, j'imagine que la curiosité vous a fait en écouter quelques-unes de ces adaptations-là. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de celles que vous avez vues, les bonnes comme les mauvaises.
Moi, je pense que je commencerai par dire que Stephen King ne devrait plus jamais approcher une caméra à titre de réalisateur.
Oh, est-ce qu'on parle de Maximum Overdrive maintenant?
Entre autres choses aussi, oui, avec Emilio Estevez dans le rôle d'un cuisinier qui se bat avec un couteau électrique.
Ça va contre un semi-remorque, 18 roues, quelque chose de genre.
Aussi, donc il y a une machine à coke tueuse d'entraîneur de baseball, vraiment. Ouais. Là.
Je me rappellerai toujours de ce film-là, un petit garçon qui se fait passer dessus par un rouleau compresseur, c'est magnifique.
Je l'avais oublié, celle-là. Ah, oui. Mais c'est entre autres une des pires adaptations, à mon avis, de King, puis c'est lui-même qui l'a fait. Donc, il pourra pas dire qu'on n'a pas respecté sa vision d'auteur dans ce cas-ci. sinon, je pense que les excellentes et les très bonnes adaptations, qui les démarque de tout le reste, c'est la fidélité. Non pas nécessairement au texte lui-même, parce que je pense entre autres à Shining, que même moi, je suis plus du genre à pencher du côté de King là-dessus et à dire que Kubrick a quelque peu dénaturé l'œuvre de King.
Mais tu sais, King a eu sa revanche là-dessus quelques années plus tard. Il a lui-même écrit une mini-série télé qui est fidèle, scène par scène, au roman original.
En fait. Mais c'est ça aussi, à ce moment-là, si c'est plus fidèle, mais que la qualité est moindre, j'aime mieux la version de Kubrick à ce moment-là, ou d'autre part, je pense entre autres à La Ligne verte de Frank Darabont, qui est extraordinaire comme adaptation. Déjà, la nouvelle à la base est géniale, mais le film pousse ça encore plus loin avec le casting, avec l'atmosphère qui est là aussi, les costumes, les décors de la prison et tout, mais je pense que le casting joue beaucoup aussi.
Ben, puisque tu parles de Green Mile, La Ligne verte en français, est-ce qu'on pourrait pas conclure un peu hâtivement que les meilleures adaptations à l'écran basées sur du matériel écrit par King sont pas celles qui traitent d'horreur et de surnaturel?
C'est justement ce que je me disais moi aussi, effectivement. Bon, on pense à Stand By Me aussi,
ben
qui
oui,
est une des très très belles adaptations. The Green Mile aussi en est une autre. Quoique... Oui, Shawshank Redemption aussi, effectivement. Quoique Carrie, Misery, qui sont des contre-exemples assez probants à mon avis, donc je sais pas. De l'autre côté, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont ceux qui font pas appel au surnaturel? Peut-être, ce sont ceux qui sont plus réalistes, entre guillemets, dans, même avec les méchants ou les monstres aussi, parce que It était relativement horrible, à mon avis, entre autres. Mm-hmm. Là, mais là aussi, c'est une question d'effets spéciaux, des fois. Je vais laisser la parole à mes collègues. Ouais,
c'est ça. Quoique Tim Curry a quand même marqué l'image de Pennywise, l'interprétation qu'il en a fait. Moi, j'ai vu des gens avec des tatouages de Pennywise et tout le kit. Je pense que c'est le point, un des seuls points positifs de cette adaptation-là, à mon sens.
Effectivement, c'est le... La représentation visuelle de Pennywise, donc de quoi aurait l'air Pennywise le clown, je pense qu'effectivement, Tim Curry a réussi quelque chose de gros avec un personnage central de l'œuvre de Stephen King.
Oui, je pense que vous avez touché un bon point, les gars, en disant que les adaptations sur des romans qui sont plus réalistes sont mieux réussies. C'est pas toujours le cas, évidemment. Je pense à Bazar, qui a été repris, là,
L'inconnu de Castle Rock, Max von Sydow, ouais.
Qui était vraiment terrible, que tu perdais tout l'essence du roman. Mais évidemment, tu sais, dans un roman où tu as besoin de chaque habitant de la ville pour créer un portrait, pour réaliser le plan, justement, de l'homme en noir, c'est tellement important. Je trouve que ça aurait été mieux adapté en série, parce qu'on aurait vraiment plus eu le temps de développer l'histoire, de voir chacun des personnages, de voir comment chaque petite blague que les gens doivent faire en échange de l'objet acquis a une répercussion. Je pense que là, ils ont pas du tout réussi. Quoique, aujourd'hui, ils font la série avec Dome, qui s'écarte complètement du roman. Tu sais, ils ont gardé...
À ce point-là?
Ils ont gardé la prémisse de l'histoire, certains personnages, mais j'écoutais la première saison, puis il y a des personnages qui meurent pas dans le livre, d'autres personnages, au contraire, qui ont une plus grande longévité, puis là, ils sont en train de changer vraiment toute l'histoire, là. Ils vont sortir du dôme, pas sortir du dôme. Vraiment, là, ce qui est triste, c'est qu'il y avait le bon format pour vraiment bien présenter l'histoire, puis ils sont tout en train de changer l'histoire. C'est correct, faut faire la paix à un moment donné avec les gens qui font des adaptations, là. Tu prends une œuvre, puis tu l'adaptes comme toi tu veux, fait que c'est correct. Génère moins de colère que par le passé, à cause d'adaptation, mais ils sont en train de dénaturer l'histoire. Je veux dire, il faut pas que tu regardes ça en pensant que tu vas regarder l'adaptation du
c'est
livre.
C'est ça, tu sais, quand ils annoncent une saison 2 à un livre de Stephen King, là, tu fais comme, OK, là, ils ont clairement pris des libertés avec le récit, là.
Mais ils auraient pu faire plusieurs saisons avec leur roman d'origine. C'est juste qu'ils se sont vraiment détachés de l'histoire, puis ont enlevé des trucs vraiment glauques qui fitaient vraiment bien. Moi, Junior, qui va tuer sa petite amie... Attention tout le monde, ceux qui n'ont pas lu le livre, ouais. Fermez vos oreilles.
Dans 3, 2, 1, vas-y.
Fait que Junior, là, il va finir par tuer sa blonde, l'enfermer dans une maison et venir jouer avec elle sexuellement de temps en temps. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman. Donc, ça crée un personnage qui est complètement différent. T'sais. Dans le livre, Junior, il ne sait pas, mais il a un cancer du cerveau qui tranquillement fait sa place. Fait qu'il y a des maux de tête incroyables. Puis il vient vraiment comme... Il vient comme une petite frappe. Moi, il est dans ma catégorie des petits salauds,
tes
là.
Tes préférés, c'est ça?
Ouais, les petits salauds, là, qui, tranquillement et pernicieusement, vont mettre des bâtons dans les roues avec leurs petits gestes cruels et égocentriques. Dans le roman, dans la série, Junior est pas du tout comme ça, puis il commence à avoir une place de plus en plus noble, je dirais, dans le roman. Puis ça m'attriste un petit peu. Donc, je pense que les adaptations, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Faut pas nécessairement dire que c'est dans la vraisemblance ou le surnaturel. Des fois, il faut même regarder des productions un peu plus obscures pour avoir de bons résultats. J'ai regardé justement une série qui a repris des œuvres de Rêve et Cauchemar, qui ont fait une petite télésérie, là, puis c'est un petit garçon qui a été capturé par une dame style sorcière d'Hansel et Gretel, puis elle le nourrit pour un grand repas gastronomique avec ses amis, elle va finir par le dévorer, et pour empêcher d'être dévoré, il fait un peu à la façon Scheherazade, il lui raconte des histoires, et ces histoires-là
Tales
sont
from
les
the dark side, c'est
exactement.
Ça, oui, okay, oui, je m'en souviens.
Et ce sont les histoires que dans Rêve et Cauchemar, dont l'excellent histoire, le chat d'enfer, qui est vraiment bien repris, là, notamment. Donc, des fois, il faut regarder les petites productions obscures, puis on se trouve des fois qu'il y a beaucoup plus de résultats, des fois avec moins de moyens. Donc, tu fais moins de gros effets spéciaux qui ne fonctionnent pas. Tu vas plus avec la suggestion, plus avec l'atmosphère. Puis à partir de ce moment-là, ça fonctionne mieux.
Absolument, je pense que tu as mis le doigt là-dessus, justement. Je pense qu'ultimement, les meilleures adaptations de King sont celles qui viennent de petites nouvelles-là. Dans le fond, tu as nommé Tales from the Dark Side, mais aussi, je peux peut-être enchérir avec Creepshow. Justement, c'était comme 3 histoires scénarisées par Stephen King. Je pense que la plupart avaient été écrites uniquement pour le film. Ça a donné vraiment des trucs, un film qui se regarde très très bien, dont on n'est pas déçu. D'ailleurs, je pense que dans le premier film, Stephen King a un des rôles principaux de l'histoire dans laquelle il joue. Il fait un espèce de genre de fermier qui trouve une espèce de comète.
Ça vous pousse dessus.
Ouais, c'est ça exactement. Puis c'est très très bien. Je pense que dans le deuxième film, c'est pas Romeo qui l'a réalisé, mais c'est les 3 histoires, ça vient de King également, de son répertoire.
Je pense que le radeau aussi, hein, dans ces histoires-là, le radeau qui est une histoire, à mon sens...
Ouais, il y a un genre de blob.
L'essence
ouais.
du fantastique, là, cette espèce de tache noire avec des blob, couleurs ouais. qui flotte sur l'eau et qui tranquillement va essayer de dévorer quatre jeunes qui sont sur un petit ponton au milieu du lac. C'est assez fantastique. Donc, des fois, tu pourrais dire, ah, les effets vont moins bien réussir, mais non, la tension est là. Tu vois les gens se faire broyer, ces espèces de couleurs chatoyantes qui vont hypnotiser les gens qui vont même aller jusqu'à dedans. Ça, c'était très bien fait. Des fois, il faut aller dans les productions un petit peu plus obscures.
Mais personnellement, pour avoir été un spectateur très intéressé aux adaptations de King au cinéma puis à la télé pendant plusieurs années, j'ai fait l'observation de quelques points qu'ont en commun environ 90% d'entre elles. De un, dans le résultat final, le jeu des acteurs oscille souvent entre crédible et, comme on dit en bon français, over the top. Ça enlève souvent beaucoup de sérieux au produit final. De deux, elles ont toute une trame de fond mystérieuse et super intéressante qui parvient à nous captiver jusqu'à la fin, parce qu'on est curieux de connaître le fin fond de l'histoire. Mais quand ce moment-là arrive, c'est souvent une grosse, mais plutôt une énorme déception, parce que la résolution est souvent simpliste ou même parfois vraiment stupide et ridicule.
Parce que souvent, tu sais, l'horreur, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont pas adaptables, parce que des fois, c'est tellement dans le non-dit puis dans l'indicible que ça se traduit mal. Donc souvent, à l'image, t'as pas nécessairement le même besoin de conclusion qu'à l'écrit ou ton imaginaire, puis toi tu fais l'inférence, tu remplis les blancs.
Ouais, j'ai une impression, je viens d'avoir un flash comme ça, mais je me demande, je serais vraiment curieux d'entendre une adaptation d'une nouvelle de King à la radio. Je me demande si ça réglerait pas la majorité des problèmes que tu as soulevé, Sébastien, parce que, à mon sens, King est un... Et là, les fans, s'il vous plaît, épargnez-moi, laissez-moi le temps de finir ma phrase. King est un mauvais écrivain, mais est un excellent conteur. Donc, son écriture, son style, puis King l'avoue régulièrement, c'est brut, c'est pas raffiné plus que ça.
C'est du Big Mac.
C'est un trio McDo, tout ce qui est tout, c'est du craft dinner, de la littérature, mais en même temps, il est capable de raconter une histoire et de nous faire voir les choses. Alors, quand un scénariste prend ces histoires-là, le scénariste, lui, a pas le choix, il peut pas nous les faire imaginer. On doit les voir à l'écran. Parce qu'on peut pas être dans la tête du personnage dans un film, mais dans un radio-roman, par exemple, là, je serais curieux de voir à quel point. Et petite anecdote comme ça en passant, Stephen King a déjà tenté d'écrire un radio-roman pour financer sa station de radio aux États-Unis, mais ça a été un flop monumental et ça n'a jamais donné suite. Donc,
moi, pour faire lien avec ce que tu dis, PA, là, moi, j'écoute beaucoup, présentement, depuis la dernière année, j'ai écouté beaucoup... de livres de Stephen King. Je me les loue en radio-roman. Puis, franchement, j'ai une toute nouvelle vision de ces histoires-là. À l'écoute, ça fonctionne vraiment bien. Là, je viens d'écouter Christine, puis Misery, puis on dirait là que j'ai vécu une toute nouvelle histoire. Bon, une toute nouvelle histoire. Mais j'ai une nouvelle approche, ça. Puis vraiment, l'art de conter est au centre de son œuvre, là, franchement. Là.
Puis c'est très bon point. Exactement. Puis ce que vous dites, ça rapporte encore au terme que je disais, c'est-à-dire le théâtre de l'esprit. On vous le montre pas à l'écran, vous êtes libre dans votre tête d'imaginer ce qui se passe quand on vous le raconte. Puis vous allez vous l'imaginer d'une manière différente, puis vous allez vous l'imaginer d'une manière à vous faire peur personnellement. Je pense que c'est ça qui est la clé de ce concept-là de l'écouter en livre audio.
Ouais, tout à fait. Puis il y a la question aussi qui est très difficile à mon sens, surtout pour King, la question du casting. Il y a des fois où ça va fonctionner super bien, comme entre autres dans la rédemption de Shawshank avec Morgan Freeman, ou dans la nouvelle de King, c'est plus ou moins sous-entendu que tous les personnages sont blancs.
Je pense qu'en plus, le personnage de Morgan Freeman, dans la nouvelle, c'est un Irlandais roux, puis caucasien, c'est ça?
Oui, exactement, c'est ça, c'est un Irlandais, puis vraiment, il est roux, comme juste les roux peuvent l'être.
La direction de la revue Clair-Obscur tient à préciser que tous les roux ne sont pas nécessairement tels que dépeints par notre distingué collègue, quoique beaucoup le soient quand même. À tous les roux à l'écoute, nous tenons à vous dire que nous vous aimons beaucoup.
Donc, ça a été une gageure que Darabont a prise, mais qui a payé très fort, parce que Morgan Freeman apporte une présence à l'écran qui est très forte, mais je pense, entre autres, à mon avis, une des pires erreurs de casting, c'est dans le film de ça, celle qui joue Beverly. Je suis désolé, mais je veux dire, l'actrice...
Je pense que c'était Annette O'Toole, si je me trompe
pas. Oui, effectivement.
je vois le soupir de dégoût ici.
Pas du dégoût, mais dans la façon qu'ils l'ont présentée à l'écran, elle était trop ordinaire pour fonctionner comme Beverly Marsh. Mm-hmm. Beverly Marsh était supposée être, j'arrive même pas à l'expliquer en fait, mais disons qu'Annette O'Toole, pour moi, était aux antipodes de ce qu'aurait dû être Beverly Marsh à l'écran. Même chose pour Ben Ascombe aussi, qui est un personnage qui aurait dû être, à mon avis, donc le comédien qu'il jouait avait encore de l'embonpoint, alors que c'est clairement mentionné dans le roman que Ben a vraiment perdu beaucoup de poids, qui est rendu assez musclé et tout, assez mince. Donc, il y a beaucoup des erreurs de casting qui vont plomber une adaptation, à mon avis, de King. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, chez King particulièrement.
Et pour conclure l'aspect des adaptations cinématographiques, moi, j'ai envie que vous me parliez un peu de celles que vous aimez bien et qui vous ont laissé une bonne impression.
Moi, j'irais avec La Ligne verte. C'est vraiment l'adaptation la plus fidèle que j'ai vue. J'ai pleuré à la fin de la nouvelle, à la fin du roman, j'ai pleuré à la fin du film aussi. J'suis un grand sentimental quand il s'agit de King, où je pleure régulièrement quand les personnages meurent. Non, c'est pas vrai. Mais dans le cas de La Ligne verte, j'ai trouvé qu'il y avait une sensibilité, une humanité et le jeu des acteurs. Je veux dire, Tom Hanks, entre autres aussi. L'acteur qui jouait John Coffey, qui est décédé malheureusement.
Michael Clark Duncan, oui.
Oui, qui est un acteur qui a rendu le personnage de John Coffey d'une façon magistrale. C'était incroyable.
Quand il pleure, là, avec les deux petites jumelles dans les mains, ou quand il pleure avec la souris, c'est tellement sa vulnérabilité, là. Waouh!
Fait que moi, pour moi, La Ligne verte, c'est le film adapté d'une œuvre de Stephen King. Suivi de près quand même par Shawshank Redemption, qui est là aussi très réussi, très juste dans le ton employé aussi. Là, on... Puis du côté épouvante, vraiment film d'horreur, moi j'avoue que Cynthia m'a vraiment foutu la chienne. Honnêtement, là, j'ai eu peur en regardant Cynthia, le petit Gage, là, le petit maudit, qui... ah! T'es pas marrant, ce petit bonhomme-là avec son scalpel. Mais d'autre part, je l'ai vu étant ado, mais ça reste quand même un très très bon souvenir de film d'horreur inspiré de King.
Mélissa, je veux ta version des faits là-dessus.
Ok, mais je pense qu'on s'entend tout à peu près sur les mêmes œuvres. Moi aussi, je trouve que ces œuvres réalistes qui sont rendues avec beaucoup de justesse, là, À l'ombre de Shawshank, La Ligne verte, j'avais l'impression de lire le livre en même temps que voir le film. C'était vraiment, l'acteur qu'ils ont pris aussi pour faire Percy était super, vraiment. J'ai beaucoup aimé Stand By Me, que je réécoute au moins une fois par année, un classique. J'avoue que moi, je suis une grande fan, déjà que je suis une fan de Kubrick, je suis une grande fan de Shining. Franchement, j'ai trouvé que sa façon de traiter l'horreur, même s'il y a eu des libertés à changer quelques petits trucs, pour moi, je suis beaucoup en paix avec les changements qu'il a fait. Je trouve que ça rend bien service à l'histoire qu'il présente, Kubrick. Ce que j'aime particulièrement dans ce film-là, c'est comment l'horreur est véhiculée. Pour une des premières fois dans le cinéma, le monstre ne sort pas de l'ombre tout d'un coup avec un couteau, avec la musique qui t'indique qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est une horreur en grande lumière. Tu sais, quand Jack Torrance arrive avec son couteau pendant que Wendy est en train de lire son roman, on a le temps de le voir arriver bien tranquillement derrière elle. Il n'y a pas de saut ou de quoi. C'est vraiment bien rendu. Ce que j'aime, c'est l'horreur qui a été rendue par l'inquiétante étrangeté. Tout ce qui est de la répétition, les phrases qui se répètent sans cesse. Tu vas être ici pour toujours, ces espèces de temps aussi, le temps qui se répète tout le temps, tu sais. Jack est dans l'hôtel et il a toujours été dans l'hôtel et il sera toujours. On le voit sur la photo du bal de 1921 à la fin. Dans l'inquiétante étrangeté aussi, avec la répétition, il y a le double qu'on voit régulièrement, les jumelles dans les couloirs, les chutes de sang parfaitement symétriques qui sortent de l'ascenseur. Les gens aussi dans l'inquiétante étrangeté, il y a aussi les apparences de mort chez le vivant. Évidemment, là, on voit beaucoup dans les apparitions. Même Jack, à certains moments, il y a des moments où est-ce qu'il est dans des espèces de transe où il y a ce regard vide, où il a l'air lui-même d'un mort vivant tout en étant... d'un l'air mort tout en étant vivant. Je trouve que ça se présente vraiment bien. Puis aussi, tu sais, dans l'inquiétante étrangée, il y a ce sentiment, la force de l'esprit, là, cette espèce de sentiment déjà vu, ou comment tu peux provoquer les événements. Oui. Fait que ça, je trouve ça merveilleux comment il a véhiculé l'horreur dans son film. J'avoue que The Shining, c'est un de mes préférés. Mais évidemment, il y en a beaucoup que j'aime. Je veux dire, Christine, j'ai adoré ça. La musique dans ce film-là, je trouve que rend... Oui. Ah ouais, puis la musique, elle rend tellement bien. Je trouve cette espèce de... ping! Qui reste...
Je dois avouer que Christine, tout ce que j'en ai vu, c'est la fin. Donc, disons qu'après avoir vu, je veux pas vendre le punch encore
Christine
une fois.
Christine a tout écrapou.
Oui, mais c'est un pot. cube de voiture qui continue à bouger de façon menaçante. J'ai pas vraiment le goût de voir le avant, ouais, ce bout-là, mais d'un autre côté, c'est quand même John Carpenter. Je vous fais confiance, je vais lui donner une chance.
Yes.
On sent que c'est correct, ça? Ça va comme ça?
Moi, je tiens à préciser qu'on a perdu Jonathan Reynolds. Il est allé à la salle de bain. On sait plus où ce qu'il est.
Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu Pierre-Luc non plus. Jonathan? Pierre-Luc?
Attends, ça veut dire qu'ils seraient partis en même temps tous les deux?
Ouais, on est sûr qu'ils sont partis.
Puis Pierre-Luc, tu sais qu'il faut pas le laisser tout seul avec quelqu'un, là, d'habitude. Là.
Oups. Bye. Excusez-moi, chers auditeurs, on va tenter de compenser l'absence de Jonathan et
Pierre-Luc.
Et des fois, Pierre-Luc, ça va être assez facile, okay, quand même.
Je trouve qu'il y avait eu un beau travail aussi sur Dreamcatcher. Franchement, moi, c'est, tu sais, des fois, là, t'as des œuvres qui sont plus ou moins réussies, mais il y a des éléments qui sont tellement bien faits que ça rattrape. Je trouvais que, tu sais, quand John Z, il est dans sa tête, mm-hmm, puis il se cache dans les compartiments, je trouvais que c'était quand même bien fait. Tu sais, moi, Pet Sematary, je l'ai vu, j'avais déjà dépassé 30 ans. Fait que quand je regardais, mm-hmm, ça, moi, je trouvais ça un peu risible. Par contre, tous les parties où est-ce que la mère se rappelle quand elle s'occupait de sa sœur, c'est tellement glauque, ça m'a terrifié, là, tu sais.
Ça met encore...
j'ai peur un peu, je pensais que tu parlais des espèces de créatures, en anglais ils appelaient les shit weasels, je pensais que tu parlais de ça comme élément bien reconstruit.
Moi je trouvais que c'était comme une vagina, mm-hmm, dans Tata, là, tu sais, là, qui vient, oui, te chercher, là.
J'ai ma sœur dans l'autre bord, ça marche pas.
C'est ça, mais hey, c'est drôle, tu parles de Dreamcatcher, un film qui a beaucoup de qualité, réalisé par un vétéran du cinéma américain, Lawrence Kasdan, mais c'est un des exemples parfaits d'un excellent setup, d'un trois quarts de film formidable, mais que la finale est ridicule, ouais. Ah, je sais pas, le combat extraterrestre gluant, ça m'a perdu. Sinon, pour finir, je peux peut-être y aller avec Creepshow, dont on parlait, réalisé par George Romero. En fait, le premier. Deuxième est pas si pire, malgré ce qu'on en dit. Sinon, moi, j'ai un petit fait pour... vous souvenez de Le Cobaye, The Lawnmower Man, un des premiers faits avec des graphiques par ordinateur. C'est un petit plaisir coupable. Dans
ouais, j'espère qu'il est coupable. On s'entend que
c'est Pierce Brosnan!
Je sais, mais Stephen King a poursuivi en justice les producteurs et il a gagné son point pour que son nom soit plus jamais associé à ça. Le plus, c'est que j'avais écouté Lawnmower Man, puis j'étais comme, c'est donc ben bon. Puis après ça, je vois que c'était supposé être Lawnmower Man de Stephen King, dont j'avais lu la nouvelle, puis j'étais, ça a aucun rapport à part le fait qu'on parle de quelqu'un qui tond le gazon. C'est le seul lien qui existe entre les deux œuvres.
Quel
c'est
de plaisir.
Tout. Mais c'est vrai qu'il y avait Pierce Brosnan quand même, et Emilio Estevez dans Maximum Overdrive.
Emilio!
Que dire de plus?
Puis sinon, je peux finir avec écouter de la série sur le Sunday, mon top 1 de Stephen King. Je serais pas différent de vous autres. Pet Sematary, mais pour des raisons complètement différentes. Oui, c'est bien réalisé. Oui, il y a une espèce de... Comment dire? Ça fait peur. Il y a des séquences bien menées de tension. Mais moi, écoutez, je vais faire une petite confidence personnelle à la maison. Sûrement que des messieurs et des jeunes garçons qui m'écoutent, vous avez déjà eu la même expérience. Tu sais, quand j'avais des soirées en tête-à-tête et tout ça, avec des jolies demoiselles, ça finissait toujours par un film. Et quand la demoiselle avait le malheur de me dire « Choisis le film, Seb! » Eh ben, ça finissait toujours avec Pet Sematary. Parce que, messieurs, si vous avez une première date, si vous voulez avoir la fille collée contre vous autres, là, à un moment donné, Pet Sematary, c'est pour vous. Alors, c'est un petit truc que je vous donne, alors...
Laissez-les pas écouter Brume, parce que ça va les déprimer, là, la fin, là, vraiment, ça va les damner.
Tout à fait. Puis en plus, ce qui est amusant, en plus, là, c'est que c'est réalisé encore par Frank Darabont, qui a fait Shawshank Redemption et The Green Mile. Puis, ce qui est amusant, c'est qu'il paraît que la fin du roman, de la nouvelle versus la fin du film, c'est complètement deux mondes différents. Puis, ce qui est amusant, c'est que King a admis que la fin que Frank Darabont a improvisée, qu'il a écrite, il a dit que c'était meilleur que ce qu'il avait pensé, et il aurait dû faire ça. Il regrette de ne pas avoir eu la même idée.
Je suis d'accord, mais d'autre part, avec la nouvelle, on est dans une des plus belles fins ouvertes de Stephen King.
Raconte-la donc, s'il te plaît.
En fait, à la fin de la nouvelle, c'est vraiment, ils roulent encore en voiture, ils ont encore assez d'essence, et pendant que bon, tout le monde dort dans la voiture, il n'y a personne qui est mort, et le personnage principal joue avec la radio, et juste avant que ça finisse, il entend, il croit entendre, en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il croit avoir entendu le nom d'une ville en jouant avec le cadran de la radio, et ils vont continuer à rouler jusqu'à temps qu'ils se rendent à cette ville-là en espérant, mm-hmm, qu'il y a peut-être des survivants qui sont capables d'émettre des ondes radio en se débrouillant comme ils vont pouvoir pour l'essence et tout. Donc, c'est vraiment une des plus belles fins ouvertes que, mm-hmm, que King pouvait offrir. Mais j'avoue que la fin de Darabont est
déprimante.
Vraiment déprimante. Oui, mais en même temps, Ça fit parfaitement comme
Mélissa. Parce qu'on ferait peut-être la même affaire pour éviter des années, des décennies de souffrance. C'est ça, tu fais le bon geste en leur épargnant ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand finalement tu te rends compte qu'après avoir tué ceux que t'aimes, tout est sur le point de peut-être se régler. Tu sais, il y a une lumière au bout du tunnel, puis qui aurait pu en profiter autant que toi. En tout cas, c'est cruel.
Puis la claque cruelle en plus, après avoir tué ta famille, quand tu réussis à sortir de la voiture, quelques secondes après, la brume se dissipe et sur un char, tu vois, tu sais, la femme qui s'était sauvée, la première pour aller sauver ses enfants, qui est là, tout en un morceau avec ses enfants qui vont bien, tu sais. C'est tellement troublant.
Je pense que le gars, en plus, essaie de se tirer une balle dans la tête, puis il y a plus
on l'empêche.
C'est ça, on l'empêche pas de tendre dans mes souvenirs.
Non,
c'était comme,
il y a plus de balles.
Il y a plus de balles, c'est terminé.
Oh,
il y a plus de balles, fuck.
Il voulait faire comme un double coup, là, prendre deux en même temps, mais c'est finalement, ça a comme pas fonctionné.
Fait qu'il est, il est dans son propre cauchemar qu'il a créé de toutes pièces. Ça, c'est horrible.
Là, Mélissa et Pierre-Alexandre, je vais vous amener sur un sujet dont je crois que vous allez vous délecter. Il y a beaucoup de romans de King qui comportent des incursions dans des univers parallèles aux nôtres et aussi des voyages dans le temps que vont faire les personnages. Dites-nous un peu comment les univers parallèles et les voyages dans le temps sont présentés par King et qu'est-ce qui s'y passe au juste quand il décide d'amener ses lecteurs dans ce genre d'histoire-là?
Ben, je pense que quand on parle des univers parallèles, on peut pas passer à côté de deux choses. Le Talisman et Black House. En français, c'est Talisman et Territoire, les deux tombes, où les habitants ont... dans le fond, dans un monde et dans l'autre, ont des jumeaux. Donc, vous et moi avons des sosies dans un monde parallèle dans les histoires de King. Mais, dans certains cas très précis, ceux dont le jumeau est décédé dans les territoires sont capables de faire le voyage du côté des territoires et peuvent influencer l'action des deux côtés. Donc ça, c'en est un, côté monde parallèle. Et de l'autre, il y a le plus gros et le plus ambitieux, qui est la question de la Tour Sombre, où là, c'est plus juste les mondes parallèles, on parle carrément d'un multivers, où vont se retrouver, justement, on est avec les Yeux du Dragon, on est avec Salem Slot, on est avec... j'en oublie tellement, et là aussi, on est avec le Magicien d'Oz, donc c'est pas juste les univers de King non plus, on est dans d'autres univers narratifs aussi, d'autres motifs qui ont été repris, et la Tour Sombre est vraiment le summum des univers parallèles chez King. C'est pas utilisé à outrance parce que, comme je l'ai dit au début, il a vraiment mis en place des villes fictives dans le monde réel, mais en même temps, je pense que ces univers parallèles lui servent à déplacer le conflit entre le bien et le mal à un niveau pratiquement cosmique. Donc, on parle vraiment d'un microcosme, comme dans Bazar, par exemple, on est dans une ville, et là, on est dans un univers parallèle, dans le multivers, et c'est la survie de tous les univers connus qui est en jeu, si le vilain réussit à faire tomber, dans ce cas-ci, dans la Tour Sombre, dans le fond, si le roi cramoisi ou Flag réussissent à faire tomber la Tour Sombre, c'est le sort de tout le multivers qui est en jeu. Donc, on est un peu plus, disons que c'est à une plus grande échelle un peu que la femme qui veut assurer sa survie pendant que Cujo essaie de rentrer dans la voiture pour la manger.
C'est quelque chose, ça.
C'est
chiant. C'est tellement spirituel ce soir.
Comme univers parallèle, ouais, je pense qu'avec les Doctor Who, probablement, c'est l'exemple le plus probant. Je pense à Roadmaster, qui va laisser entrevoir aussi un monde parallèle. On se rend compte assez rapidement dans le roman que la voiture n'est pas tout à fait une voiture, que les éléments qui la composent non plus sont pas nécessairement des éléments d'une voiture régulière et qui sont formés d'éléments, de matériaux qui n'existent pas dans notre monde. Et du coffre de la voiture, il y a des objets, des plantes, des animaux, si je peux les appeler comme ça, qui vont surgir. Ils vont essayer de les analyser, mais il y a comme pas de mots, tu sais, même si tu nous expliques que c'est comme une espèce de plante ou que c'est comme une espèce de chauve-souris, c'est pas ça pareil, tu sais. Puis tranquillement, à la fin du roman, on va entrevoir rapidement ce monde parallèle-là et on va voir des objets, des gens qui ont disparu, certains indices qui montrent que ces gens-là aussi ont traversé d'un côté puis de l'autre. Ça, je trouve ça intéressant. Au-delà des univers parallèles vraiment comme physiques, il y a les espèces d'univers parallèles qui sont plus temporels. Je pense que ça, c'est intéressant aussi. Mais au-delà des temporels, je pense rapidement...
Ben, en fait, regarde, pour tes univers temporels, ça, mettons, peux-tu nommer certains exemples de romans ou de nouvelles dans lesquelles on peut les retrouver?
Ben, j'irais plus des nouvelles, je dirais. Je pense à la nouvelle, le New York Times Something Something. Là.
New York Times at Bargain Prices. En français, je pense que c'est le New York Times à prix réduit ou à offre spéciale, quelque chose comme ça. En tout cas, vous m'excuserez de ne pas avoir la version française en tête.
Aucun problème.
Mais ça se passe dans avec.
La New York Times a un prix spécial. Ah, c'est ça vient de me revenir. Donc, des espèces d'ouvertures sur le temps, où on va voir dans le passé ou dans le futur. Dans cette nouvelle-là, c'est une femme qui reçoit l'appel de son mari qui est décédé d'un accident d'avion, qui va réussir à avoir...
C'est le 11 septembre, en fait, c'est ça. Il est dans un des deux avions qui va foncer dans une des Twin Towers et il va avoir le... En fait, il va appeler sa femme.
Il appelait quand l'avion s'est écrasé, donc mm-hmm. c'est un peu cette espèce de lien-là qui est subsistant, qui va lui permettre d'appeler sa femme puis lui expliquer un petit peu qu'ils sont comme un petit peu en attente de passer, disons, vers la mort, le pays de la mort, mm-hmm. donc. Des gens qui savent, bon, qu'est-ce qui est arrivé, mais qui essaient de passer le temps. Bon, le pilote, lui, qui comprend pas qu'est-ce qui est arrivé, puis qui, lui, fait juste crier non-stop, là. Puis en même temps, il va faire une projection dans le futur en avertissant sa femme de faire attention le dimanche, de pas aller à la pâtisserie qu'ils vont d'habitude chercher des bagels le dimanche. Puis finalement, des années plus tard, il va avoir une explosion dans une pâtisserie. Donc, il fait comme l'avertir d'outre-tombe, là, tout ça. Puis ça ouvre le lien, parce que, bon, Stéphanie se base beaucoup justement sur des événements traumatisants que les États-Unis ont vécu, là, des événements qui ont laissé des cicatrices, comme les événements du 11 septembre, qui réfèrent là-dedans. Ouais. Ouais. Puis dans le 11 septembre, il en parle aussi, il y a aussi les laissés pour compte. Une nouvelle, c'est un gars qui, dans son appartement, il y a des objets qui vont apparaître. Puis ce sont tous des objets qui appartenaient à ses collègues de travail qui travaillaient dans une des tours qui a été détruite. Lui était en congé cette journée-là, par hasard. Puis ces objets-là viennent chez eux et il doit les remettre aux gens de sa famille. T'sais, question de processus de deuil. Super belle nouvelle. L'événement traumatique, comme tu disais, Sébastien, l'assassinat de John F. Kennedy, qui est vraiment un élément cicatrice. Ben, là, vraiment,
c'est un gros, gros traumatisme pour les États-Unis.
Moi, qui est particulièrement fan de cet événement-là, j'ai toujours... je suis née le 22 novembre, donc à ma fête, il y avait toujours des films sur John F. Kennedy, donc rapidement, tu sais, je me suis attardée à ça, puis ça m'a toujours fasciné l'histoire de cette famille-là. Donc, dans son roman 22-11-63, pour moi, je retrouvais tout, là. Il y avait Stephen King, les voyages dans le temps, l'assassinat de John F. Kennedy. Là, j'étais gâtée. Une belle histoire, vraiment, où là, il exploite vraiment le thème du voyage dans le temps. Ce que je trouve particulièrement intéressant, là, c'est que ça arrive dans plusieurs récits que les gens vont essayer de justement d'utiliser le voyage dans le temps pour sauver John F. Kennedy. Je pense notamment à un épisode de Twilight Zone où un professeur qui est un petit enfant de John F. Kennedy qui est revenu du futur pour enseigner l'histoire et qui va empêcher l'assassinat aussi de John F. Kennedy. Puis à chaque fois que j'ai lu des histoires où les gens essaient d'empêcher cet assassinat-là, ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois que cet assassinat-là est empêché, ça a des conséquences funestes, des conséquences qui vont jusqu'à la destruction du monde entier, là.
Effet papillon.
Mais d'autre part, c'est peut-être aussi pour exorciser cette blessure-là, parce que si Stephen King, par exemple, avait fait en sorte que ça finisse bien et que John F. Kennedy s'avère être un des plus grands présidents que les États-Unis ont jamais connu, on s'entend que ça retourne un peu le couteau dans la plaie, où ça remet les Américains, le nez des Américains, dans quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc on fait « ben oui, il est mort », puis il aurait pu être un très très grand homme, point, point, point. Alors
c'est
que là,
fini des amis.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est fini, c'est plate, mais c'est comme ça. Alors qu'en faisant en sorte que, oh non, vraiment, ça aurait déchiré le continuum spatio-temporel de que nous le connaissons, on fait « Ah ben c'est correct, on va accepter mm-hmm. qu'il est mort, puis on va passer à autre chose aussi. » Mais au niveau des distorsions spatio-temporelles, justement, King s'est beaucoup amusé avec ce concept-là. Et quand je dis amusé, il y a une de ses nouvelles, justement, qui est un humour qui est très noir, qu'on voit rarement, à mon avis, chez Stephen King, mais qui est vraiment très efficace. Et le titre en anglais, c'est... Le titre en anglais littéral, c'est « Cette impression qui n'a de mots qu'en français ». Et il est question du déjà-vu. Donc, le déjà-vu n'a pas de traduction anglaise, n'a pas d'équivalent en anglais. Et, en gros, c'est un homme qui est avec sa femme dans un avion. Et là, ils vivent un voyage qui est très, très turbulent. Et l'homme qui s'interroge à savoir si c'est ce que la définition des gens de l'enfer, il se dit « Ben, j'y suis en ce moment ». Et la chute de la nouvelle, c'est que, ben, finalement, effectivement, il est en ce moment au purgatoire parce que l'avion s'est écrasé pendant la tempête, donc pendant leur vol. Donc, on a vraiment un humour très noir sur la boucle temporelle qu'on va retrouver aussi dans une autre nouvelle dont j'oublie complètement le titre. Ce sont des voyageurs dans une gare de train qui attendent quelque chose, qui attendent un train. Ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas pourquoi ils attendent. Et là, il y a la conjointe du personnage principal qui s'impatiente et qui sort. Elle s'est chicanée avec lui, elle sort. Puis au début, il jase avec les gens et tout, puis il décide d'aller la chercher. Puis quand il la retrouve, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont au moment... En fait, je pense qu'ils sont une semaine plus tôt, parce qu'ils se revoient dans ce bar-là en train d'écouter un band live, et ils se rendent compte que là aussi, ils sont décédés, puis qu'ils sont revenus dans le passé, une semaine avant, mais qu'ils sont dans le purgatoire, donc ils sont en attente, et que ça donne que ça a reculé d'une semaine, wow, le temps. Donc, les boucles spatio-temporelles, les boucles temporelles particulièrement aussi, King a joué beaucoup avec. Il y a une de ses nouvelles de science-fiction, The Jaunt, où c'est le voyage, justement, là, c'est du voyage spatial, mais où les gens sont endormis parce que, pour éviter les désagréments, il y a un jeune garçon qui, lui, va feindre d'être endormi et qui, pour son plus grand malheur, va avoir contemplé l'éternité pendant le déplacement. C'est que vraiment, King va jouer avec la question de la relativité et l'enfant va expérimenter de première main la question de la relativité, donc l'éternité que ça leur a pris pour se déplacer d'un point A au point B, ce qui l'a rendu complètement fou et ce qui l'a vieilli. Il a l'air d'un vieillard de 90 ans quand il se réveille, il est complètement fou parce qu'il a contemplé l'éternité de l'espace. Donc, la question du temps chez King est extrêmement riche en conséquences et en analyse, je crois.
Il y a même une nouvelle où est-ce qu'il va mélanger les deux. Là, il va jouer avec l'espace et le temps. Je pense que la nouvelle s'appelle « Un groupe d'enfer ». En français, oui, du moins. Donc, un couple qui voyage en voiture. Bon, évidemment, ils se perdent. Évidemment, l'homme ne veut pas demander son chemin. Puis, finalement, ils vont se retrouver, tu sais, après avoir bifurqué partout puis traversé la forêt, dans une petite ville nichée dans les petites collines. Puis, bon, ils vont arrêter dans un snack bar. Puis, ils ont une espèce d'impression désagréable, de déjà-vu, où ils reconnaissent la serveuse, le cuistot, pour finalement découvrir qu'ils vont être... disons, capturés par toute cette ville, ils pourront plus sortir de cette ville-là et où la plupart des gens qui y habitent sont des artistes qui sont disparus. Donc, leur serveuse, c'était Janis Joplin, Buddy Holly était le cuisinier, il y a Elvis qui va être là pour donner son show. Elvis, c'est le maire de la ville.
C'est là qu'ils sont tous, ces artistes-là.
Puis c'est pas super agréable, tu vois que les gens qui sont déjà là en captivité depuis un certain moment, dont une des serveuses, c'est une espèce de boucle temporelle où tous les jours il y a un super concert le soir, puis ça tourne, tout ça, sont pris dans cette espèce de ville du rock qui s'appelle, je pense, Rock Heaven ou quelque chose comme ça. Puis des fois, ces prémonitions, ça, c'est même pas des voyages, même pas dans le temps, ça peut être dans les rêves. Je pense la nouvelle Le rêve d'Harvey, où c'est un homme qui se réveille le matin vraiment chamboulé et raconte à sa femme le rêve qu'il a fait. Et dans ce rêve-là, bon, il rêve que sa fille, il a reçu un appel que sa fille est décédée, qu'elle a eu un accident. Puis finalement, tu sais, à la fin de la nouvelle, on se rend compte que le voisin a une tache de sang sur sa voiture et on se rend compte que ce rêve-là, c'est ce qui s'est passé en réalité. Sa fille, durant la nuit, a été frappée et décédée.
Écoutez, on va finir en beauté, les amis, avec la question qui tue. Si, admettons, c'est une question de vie ou de mort, OK? On vous force à, mettons, la pointe d'un fusil.
Jamais!
Quel est votre roman ou nouvelle de Stephen King préféré? Vous n'avez qu'une seule réponse à donner.
Je vais attendre que l'intégrale de ses œuvres sorte en 28 volumes. Et je vais dire l'intégrale des œuvres de Stephen King en 28 volumes.
C'est triché, ça.
Ah, d'accord. Je vais y aller. Ben, en fait, je vais diminuer le niveau de tricherie, mais King considère La Tour Sombre comme un seul roman réparti en 8 volumes, et je suis d'accord avec lui, puis je vais y aller avec La Tour Sombre. Encore une fois, j'ai passé 4 ans de ma vie dans cet univers-là, et c'est une œuvre qui est englobante, qui reprend tous les éléments que j'aime chez King, qui reprend ses univers aussi, les personnages qui reviennent. Tout est là, tout est dans La Tour Sombre, donc je vais y aller avec les 8 volumes de The Dark Tower.
Hey, petit aparté pour La Tour Sombre, moi j'avais côtoyé quelqu'un qui commençait à les lire, puis il paraît que c'est assez hardcore comme lecture, dans le fond. Est-ce que tu recommandes ça à un néophyte de Stephen King pour commencer,
non,
ou tu recommandes ça vraiment à un niveau un peu plus avancé?
Moi, je vous dirais, si vous voulez vraiment découvrir King, commencez par n'importe quel de ses recueils de nouvelles. Vous allez avoir une idée de son style d'écriture, vous allez avoir une idée du ton qu'il emploie, après ça, des thèmes abordés aussi, après ça, passez à des romans, mais de toute façon, La Tour Sombre, à mon avis, c'est la cerise sur votre sundae. C'est vraiment le cadeau que vous vous faites quand vous êtes assez avancé, parce qu'il y a tellement de références j'ai passé 300 pages à relever les références, puis j'ai pas fini encore. Il y a des concordances qui ont été faites là-dessus. Il y a des livres complets sur les univers de Stephen King qui ont été faits. Il y a un wiki sur Stephen King, juste sur les concordances de La Tour Sombre, les références et tout. Donc, moi, je me dis, La Tour Sombre, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment aimer King pour lire La Tour Sombre, puis il faut être assez avancé, à mon avis, dans ses œuvres pour être capable d'apprécier toutes les références qui sont importantes aussi. Donc, non, les néophytes, à mon avis, commencez plus par des recueils de nouvelles pour avoir une idée du ton un peu, puis de savoir si vous aimez Stephen King ou non.
Merci du conseil. Ça me fait plaisir. Mélissa, on t'écoute à ton tour. La question qui tue.
C'est la question qui fait mal. Okay, oui. Tu pas, elle te laisse souffrir longtemps, là, dans d'affreuses agonies. C'est vraiment difficile de choisir son l'œuvre préférée. Je pense que si j'étais obligée de tout brûler mes livres et d'en garder seulement un, je pense que je choisirais It. Je pense que je choisirais ça. Je trouve que l'œuvre recoupe beaucoup de ses thèmes, de ses atmosphères. Si tu veux aller dans l'horreur, tu sais, le personnage de Pennywise, comme on disait là précédemment, il représente tellement de facettes de monstres différents, tellement de variations sur l'horreur. Mais je suis une grande fan de ses recueils. Ces recueils de nouvelles, moi, je m'en délecte. Il y a tellement de petits bijoux. Dans Tout est fatal, franchement, là, il y a des perles. Le dîner au Gotham Café, c'est extraordinaire. Un serveur qui va virer complètement fou. Un couple qui est en train de son divorce, là, mon Dieu, qui va se rapprocher. Il y a un tour sur le bolide, là-dedans, qui est super. L'autovirus, mais cap au nord. Franchement, il y a 1408 là-dedans. L'homme au costume noir. Il y a des nouvelles magnifiques là-dedans. Dans ce macabre aussi, là, franchement. Fait que c'est assez difficile. Pour quelqu'un qui voudrait commencer, moi, je dirais, commencer avec certains classiques. Tu sais, commencer avec Pet Sematary, Christine, Misery. Ça donne vraiment une idée du ton, puis des thèmes. Puis, tu sais, si à partir de là, vous êtes pas content, ben, vous êtes mort en dedans, c'est sûr.
Avant de le laisser aller, on va profiter de la présence d'Anne-Marie pour qu'elle nous parle un peu du contenu du tout nouveau numéro de Clair Obscur, qui est disponible depuis à peine quelques jours. Anne-Marie?
Alors, pour le numéro 12, en fait, c'est un spécial gore. On a d'excellentes nouvelles, dont une nouvelle de Frédéric Raymond, qui est éditeur de La Maison des Viscères. On a Monsieur Michel Gingras, Kevin Girard, qui écrit beaucoup pour la collection Zone Frousse, des éditions Zélé. Sinon, on a beaucoup de très bons articles qui se concentrent sur l'horreur, le gore. On a fait des ajouts assez intéressants, parce que je pense que quand on aime l'horreur, on aime aussi ces autres médias. Donc, on a rajouté des chroniques de jeux vidéo, de cinéma, écrits par Jonathan Reynolds, qui a disparu. Donc, on a une très bonne BD à la fin aussi. Donc, le numéro va être assez, là, assez complet. On fait le tour pas mal de l'horreur.
Et on rappelle à nos auditeurs que ce spécial Gore est disponible au coût de 7$ et peut être acheté en ligne au même titre que l'abonnement annuel à la revue au www.revueclairobscur.com. Donc, chers auditeurs, voilà ce qui met fin à notre podcast spécial Stephen King. Moi et notre panel de qualité, on espère que notre discussion a pu vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir les nombreux livres et les multiples nouvelles que celui qu'on appelle le maître du suspense nous a offert en plus de 40 ans de carrière. Et on a bien l'impression qu'il n'a pas du tout perdu l'envie de nous donner la frousse avec ses écrits. Alors, en mon nom personnel et celui d'Anne-Marie Boutillier, de Pierre-Alexandre Bonin, de Mélissa Boudreau, de Jonathan Reynolds et d'Élise Lucie-Henri Pain.
C'est vrai ça? Eh où, Élise?
Non, non. Attends.
Es-tu allé chercher Jonathan tantôt?
Regarde, elle était partie sur le balcon tantôt, je l'ai vu repasser en arrière de moi, s'est dirigée aussi vers la salle de bain, puis...
On se retrouve dans un scénario classique de film d'horreur, hein, où si vous quittez le groupe...
Ouais. Vous êtes fini.
Okay, fait que la gang, oubliez pas, faut se séparer, puis moi je reviens très bientôt, ok?
Parfait, je m'en vais directement en haut, je vais me cacher dans un garde-robe.
Excellent, moi je vais aller voir le cimetière indien qui est au sous-sol. Salut!